Bonjour, je m'appelle Bayless Conley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude. Qu'il s'agisse de problèmes financiers, de difficultés relationnelles, d'une crise de santé ou de la recherche d'un but, une chose est sûre. Dieu vous voit, il vous aime. Et quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, il a les réponses. Bonjour mon ami, merci de vous joindre à moi. Avant de nous plonger dans la parole de Dieu, je voudrais prendre un moment pour vous encourager. Jésus a dit, « Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Il a dit dans l'évangile de Jean, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » La Bible dit dans Psaume 107:20, « Dieu a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. » Ainsi, j'aimerais vous dire que le potentiel est là lorsque vous écoutez la parole de Dieu. Si vous avez une Bible, prenez-la, ouvrez-la et suivez avec moi. Lorsque nous examinons ensemble la parole de Dieu, le potentiel de vous apporter la liberté, la guérison et la délivrance est là. Car sa parole est surnaturelle. Elle crée la foi dans le cœur de ceux qui y croient. Lorsque nous y croyons, que nous y répondons et que nous agissons en conséquence, des choses se produisent. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous sommes actuellement en train d'étudier le livre des Philippiens. Paul a écrit cette lettre alors qu'il était prisonnier à Rome. Il était enchaîné à un garde romain. Mais des amis avaient le droit de lui rendre visite. Il a dicté ce que nous connaissons aujourd'hui comme faisant partie du Nouveau Testament, comme le livre des Philippiens. Ce livre a été apporté à l'église de Philippe. Plusieurs bonnes choses se sont produites. Même dans cet endroit où il était emprisonné et enchaîné, il a dit que toute la garde prétorienne était venue écouter le message de Christ. Il s'agissait des troupes les plus élitistes de Rome. Elles étaient très puissantes d'un point de vue militaire, mais aussi d'un point de vue politique. Elles ont toutes entendu le message de l'Évangile. Paul a également dit, « Certains, en voyant mes chaînes, ont compris que je ne suis pas intimidé, que je n'ai pas ralenti, que je fais tout ce que je peux dans la situation où je me trouve pour que l'Évangile se répande. » Ils ont été encouragés à prêcher l'Évangile. Il a ajouté que certains prêchaient pour de bonnes raisons, par amour pour Dieu et pour les hommes, mais que malheureusement, d'autres prêchaient par esprit de rivalité. Paul a dit, « Ils veulent simplement m'ajouter davantage d'angoisse et aggraver mon affliction. » Mais écoutez, que Christ soit annoncé pour de bonnes ou de mauvaises raisons, je me réjouis simplement que Christ soit annoncé. La vérité, c'est que Dieu confirme sa parole. Quand Dieu fait de bonnes choses, même si quelqu'un prêche le simple message du salut avec un cœur sincère et que des gens sont sauvés, ce n'est pas le sceau d'approbation de Dieu sur le ministre, mais sur sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Si quelqu'un a de mauvaises motivations, peut-être veut-il simplement être connu, peut-être veut-il simplement recevoir des offrandes, et c'est là sa véritable motivation. Mais il prêche un message évangélique scripturaire, et quelqu'un y croit et est sauvé. Le fait que quelqu'un ait été sauvé, qu'il y ait un fruit de la parole qui a été prêchée, n'est pas le sceau d'approbation de Dieu sur le ministre, mais c'est son sceau d'approbation sur sa parole, parce que sa parole est vraie. Paul a pris la décision de se réjouir, peu importe la situation. Nous arrivons à un passage dans le premier chapitre où il dit des choses étonnantes. Au verset 19, il dit « Car je sais que cela, cette situation, aboutira à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Cela aboutira à mon salut. Intéressant, littéralement, il parle d'être délivré de prison. D'ailleurs, écoutez ce même verset qui est tiré de la version « Parole de vie ». Il est écrit « En effet, le résultat, je le connais. Je serai sauvé par votre prière et avec l'aide de l'Esprit de Jésus-Christ. » N'est-ce pas incroyable? Paul croit que s'il prie, Dieu lui donnera ce dont il a besoin par le Saint-Esprit. Paul dit, je vais être délivré, je vais être libéré de cet emprisonnement. La traduction de Moffat l'exprime ainsi. Cela aboutira à ma libération. Il parle très précisément d'être libéré de prison grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Mes amis, lorsque nous prions, Dieu nous envoie le Saint-Esprit pour nous aider, nous délivrer et nous guérir. Il est intéressant de noter que le mot utilisé ici par Paul pour désigner la prière renvoie à un type de prière très spécifique. Il dit « Je sais que je vais être libéré, je vais être délivré, je vais trouver la liberté grâce à vos prières et à ce que le Saint-Esprit vous donne, cette aide que le Saint-Esprit apporte. » Le mot utilisé pour désigner la prière est très spécifique. Il comporte quatre éléments. Premièrement, dans tout le Nouveau Testament, il s'agit toujours d'une prière adressée à Dieu. Vous pourriez dire que toutes les prières sont adressées à Dieu, certes, mais il existe une manière d'utiliser votre autorité en Christ contre l'adversaire. Jacques 4:7 dit « Soumettez-vous à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. » Jésus a dit en Marc 16 « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Ils pourront chasser des démons. » En Luc 10:19, Jésus a dit à ses disciples « Je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » D'un point de vue scripturaire, il y a un endroit où nous prenons autorité sur l'œuvre de l'ennemi. Mais écoutez, ce n'est pas la même chose que de parler à Dieu. Dieu nous a donné autorité et dans des situations spécifiques, nous devons nous lever et utiliser cette autorité au nom de Jésus. Le diable reculera lorsque nous lui résisterons. Nous pouvons chasser les démons au nom de Jésus, mais ce n'est pas le sujet de cette prière. Certaines personnes se limitent à cela, elles veulent lier les forces du diable. Pour elles, c'est cela la prière, et il s'agit davantage de parler du diable que de parler à Dieu. Ainsi, même si cela a sa place, ce n'est pas le sujet de cette prière. Paul a dit « Grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, je vais être libéré, je vais retrouver ma liberté, je vais être délivré. » Donc, premièrement, ce type spécifique de prière s'adresse toujours à Dieu. Deuxièmement, elle signifie toujours une prière urgente, forte et fervente. Il n'y a rien de nonchalant là-dedans. En Jacques 5:16, elle est traduite par « prière efficace et fervente ». Il s'agit d'une prière urgente, forte et fervente, une prière sérieuse. Troisièmement, c'est une demande vocale. Elle vient en fait d'un mot qui signifie « prononcer à haute voix ». Quatrièmement, ce type de prière spécifique cible un besoin spécifique. C'est une prière qui est faite lorsqu'on est confronté à un besoin spécifique. Cette prière est très ciblée et elle est très, très spécifique. C'est une prière pour sa libération, une prière spécifique pour cela. Dieu envoie une assistance du Saint-Esprit en réponse à ce genre de prière. En fait, Paul en était tellement sûr qu'il a dit « Je sais que cela aboutira à mon salut, cela aboutira à ma liberté ou à ma libération. » Je voudrais vous demander, êtes-vous confronté à un besoin spécifique aujourd'hui? Êtes-vous confronté à une situation qui doit changer? Paul a dit « Cela aboutira à mon salut ». En fait, c'est un mot assez intéressant en soi. En grec, il signifie littéralement « débarquer ». C'est l'idée d'un navire qui arrive et dont les passagers débarquent ou dont la cargaison est déchargée du navire. Paul dit « Cela aboutira à ma liberté. Je vois à l'horizon mon navire arriver, il va arriver et ma liberté va débarquer. Cela va se produire. » Peut-être avez-vous besoin de l'assistance de l'Esprit pour apporter quelque chose de spécifique dans votre vie. Vous avez besoin que quelque chose de bon provenant des vastes trésors du ciel débarque dans votre situation et vous apporte de l'aide. Peut-être avez-vous besoin d'être libéré d'une sorte de prison. Écoutez, Dieu enverra son esprit en réponse à une prière spécifique, urgente et exprimée à haute voix qui lui est adressée au nom de Jésus. Paul prie et dit, « Je sais que je vais être délivré grâce à votre prière et à ce que l'Esprit de Jésus fournit. » Puis, il dit ceci au verset 20, « Conformément à ma ferme attente, » Paul a donc aussi un rôle à jouer, il ne dit pas, « Je compte sur vos prières et je sais que le Saint-Esprit apportera ce qui est nécessaire. Je sais qu'il apportera son aide et que Dieu enverra par le Saint-Esprit ce qui est nécessaire. » Paul dit, « Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. » Je vais continuer et je reviendrai sur ce verset dans un instant. Mais ici, Paul dit, « Je sais que vous avez prié spécifiquement pour ma libération. Je sais que le Saint-Esprit va intervenir, mais j'ai aussi une ferme attente. J'ai donc aussi un rôle à jouer, je crois, aussi. » D'ailleurs, l'expression « ferme attente » que Paul utilise ici est, en grec, en réalité composée de plusieurs mots assemblés. C'est un mot composé. Il signifie littéralement « regarder la tête droite et le cou tendu », »,« regarder avec ferveur, avoir une attente intense et persistante ». Donc la tête est relevée, le cou est tendu, et vous observez attentivement. C'est ce que signifie ce mot. Il n'y a rien d'ambigu à ce sujet. Paul ne disait pas, « Eh bien, j'espère vraiment que quelque chose va se passer. Je ne sais pas. » Mais j'espère vraiment que Dieu va faire quelque chose. Non, il y a une attente spécifique, sincère, intense et persistante. Paul attendait que le navire de la délivrance de Dieu arrive et que sa liberté débarque de ce navire et le fasse sortir de prison. C'est ce qu'il attendait intensément. Il a dit, « Je n'aurai honte de rien. » Permettez-moi de poursuivre avec ce verset, au verset 20. « Conformément à ma ferme attente, ma tête est levée et je regarde, et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. » Analysons cela. Paul dit, « Peu importe comment les choses se présentent, peu importe les circonstances, j'attends que Dieu agisse, je ne vais pas rester en prison et je ne vais pas mourir avant que mon heure soit venue. » Certains d'entre vous ont abandonné leurs attentes et leurs espoirs beaucoup trop facilement. Il est temps de relever la tête, de chercher votre réponse et d'attendre que Dieu agisse. Paul a dit, « Je n'ai honte de rien » et il a ajouté, « Je suis prêt à mourir et à glorifier Jésus par ma mort, tout comme je suis prêt à vivre et à le glorifier par ma vie. » La vie de Paul servait de lentille qui, lorsque les autres la regardaient, magnifiait Jésus à leurs yeux. Elle magnifiait le Seigneur à leurs yeux. Elle donnait une grande importance à Jésus. C'est ce que Paul dit, « Que je vive » et que je glorifie Dieu ou que je le glorifie par ma mort, je suis prêt. Mais en poursuivant notre lecture, nous allons découvrir qu'il savait que sa course n'était pas terminée. Il était convaincu que Dieu allait le libérer. C'est pourquoi il a dit, « Je suis heureux de vivre, mais je suis également heureux de mourir si ma course est terminée. » Au verset 21, il a dit ceci, « En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. » Vivre, c'est être en communion avec Christ. Vivre, c'est œuvrer pour Christ. Vivre, c'est continuer à porter du fruit pour Christ et à partager sa vie. Mais mourir, eh bien, c'est un gain. Nous reviendrons sur les versets que je saute pour l'instant. Mais au verset 23, il dit ceci à la fin du verset. « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Ce n'est pas un peu mieux, c'est de beaucoup le meilleur. Christ est ma vie et mourir représente un gain. Je préfère m'en aller, une fois encore, Paul utilise un langage magnifique. Le mot « s'en aller » en grec signifie littéralement « quelqu'un qui retire les piquets de sa tente, la plie et déplace son campement ». Il est également utilisé pour lever l'ancre et mettre les voiles. Paul dit « j'ai le désir de m'en aller, je veux vraiment être avec le Seigneur, je veux lever l'ancre et mettre les voiles pour le ciel ». Paul ne parle pas de la mort comme le fait de cesser de vivre, mais simplement de changer de lieu. Je vais lever le camp et déplacer mon campement vers le ciel. Je vais lever l'ancre de cette vie terrestre et mettre les voiles pour une autre destination, le ciel. Il a dit, « M'en aller et être avec Christ, ce n'est pas un peu mieux, c'est de beaucoup le meilleur. » La personne qui meurt dans le Seigneur est bien mieux lotie, elle gagne. Christ est ma vie et mourir représente un gain. Dimanche dernier, j'ai discuté avec une femme qui venait de perdre son mari. En fait, j'ai discuté avec deux femmes qui venaient de perdre leur mari. J'étais dehors pour saluer les gens et une femme est venue me voir après le service. Leur perte leur cause une douleur et un chagrin indéniables. Et j'ai eu beaucoup de compassion pour elles. Toutes deux étaient mariées depuis longtemps, et maintenant leur partenaire de longue date n'est plus là. Il y a un vide indéniable. Il serait insensé de ne pas les regretter, il serait contre nature de ne pas pleurer leur perte. Mais nous ne pleurons pas ceux qui meurent dans le Seigneur, car ils sont mieux là où ils sont. La plupart des larmes que nous versons sont pour nous. Elles sont pour nos enfants, elles sont pour ceux qui vont perdre le soutien, l'amitié, la camaraderie, l'amour et la relation que nous avions avec cette personne. Mais nous ne versons pas de larmes pour elles. Christ est ma vie et mourir représente un gain. Il y a quelque temps, j'ai reçu une carte postale d'amis qui étaient en vacances à Bora Bora. Bora Bora est le paradis ultime des îles polynésiennes. C'est le paradis des mers du Sud, comme on l'appelle. C'est absolument magnifique. Donc je reçois une carte postale où ils me disent qu'ils sont en vacances à Bora Bora. Imaginez-moi, littéralement assis dans mon bureau avec cette carte postale en main. Je regarde cette magnifique carte postale et je réalise où ils sont. Puis je regarde par la fenêtre de mon bureau, je vois des poteaux téléphoniques et la circulation. Je baisse les yeux vers mon bureau et je vois une pile de papiers que je dois traiter, des papiers que je n'ai pas envie de traiter. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ces pauvres gens à Bora Bora. Ils sont assis sur une plage de sable blanc. Ils ont probablement une boisson fraîche à la main. Ils sont caressés par la brise fraîche de l'océan. Ils n'ont aucun souci. Ils contemplent ces eaux cristallines. Les palmiers se balancent doucement. Ils vont aller dîner copieusement le soir. Ils vont faire la grasse matinée. Pauvres gens. Je suis assis derrière mon bureau et je pense, tous ces papiers, toute cette circulation dehors, je vais devoir rentrer chez moi dans les embouteillages. J'aimerais être à leur place, j'aimerais voir ce qu'ils voient et entendre ce qu'ils entendent. J'aimerais entendre ces douces vagues qui viennent lécher le rivage. J'aimerais vivre ce qu'ils vivent. Et vous savez, je ne suis pas encore prêt à aller au ciel, mais quelque chose en moi veut voir ce qu'ils voient. Je veux entendre ce qu'ils entendent. Je veux entendre les anges chanter. Je veux regarder dans ces yeux remplis d'amour les yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux ressentir la félicité et la radiance de la présence de Dieu. Je veux voir la cité céleste décrite dans le livre de l'Apocalypse. Je veux voir ces créatures autour du trône. Je veux entendre ces choses. Je veux voir ces choses. Je veux ressentir ces choses. Ceux qui sont au ciel sont bien mieux lotis et nous ne devrions jamais pleurer les êtres chers que nous avons perdus et qui sont allés au ciel. Ils sont gagnants. S'en aller et être avec Christ, mais où est Christ ? Est-il au purgatoire? Non. La Bible dit « quitter ce corps, c'est aller vivre auprès du Seigneur ». Le livre de Jacques décrit la mort physique comme le moment où l'esprit quitte le corps physique. C'est cela, la mort. L'esprit est votre véritable identité. L'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, a dit « Je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres ». Qui est-ce ce « je » dont il parle? C'est la personne qui se trouve à l'intérieur de son corps. Je discipline mon corps, je suis un être spirituel, je vis dans ce corps, je regarde à travers ces deux yeux vers une caméra. Vous me regardez à travers vos deux yeux, vous m'écoutez, mais mon ami, ce corps physique n'est pas vous, c'est la maison dans laquelle vous vivez. La mort physique, c'est lorsque nous abandonnons ces corps et que nous entrons dans l'éternité. Nous ne cessons pas d'exister. La Bible dit « Christ est ma vie et mourir représente un gain, et quitter ce corps, c'est aller vivre auprès du Seigneur ». La Bible ne dit pas que Jésus est au purgatoire. Le purgatoire ne se trouve pas dans les Écritures. Vous avez peut-être été élevé avec cette croyance, mais cela n'est mentionné nulle part dans les Écritures. Le purgatoire n'existe pas, il n'est pas dans les limbes. Certaines personnes ont été élevées dans un environnement religieux où l'on enseigne que les limbes sont l'endroit où vont les enfants lorsqu'ils meurent, mais la Bible ne mentionne pas les limbes. La Bible dit que Jésus est à la droite du Père dans les cieux. Quitter ce corps, c'est aller vivre auprès du Seigneur. Je vais en présence de Dieu, je vais au ciel. Quand une personne meurt, il n'y a que deux directions possibles. Soit vous montez, soit vous descendez. Vous allez être avec Dieu au ciel ou vous allez dans un endroit appelé l'enfer. Et mon ami, vous ne voulez pas aller là-bas. Vous ne restez pas dans les parages après votre mort. Vous partez et vous allez rejoindre le Seigneur. Vous ne restez pas pour hanter une maison quelque part. Vous ne restez pas pour transmettre des messages à vos proches. Ce sont les mauvais esprits qui font cela, mon ami. Vous ne trouverez pas cela dans les Écritures, en particulier dans le Nouveau Testament. Christ est ma vie, car lorsque nous mourrons, nous allons le rejoindre au ciel. Paul poursuit et dit des choses extrêmement puissantes dans les versets suivants. Versets 21-22. « En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. » Versets 23-25. « Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. » Comprenez ce que nous venons de lire. Paul a dit, « S'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je ne sais pas quoi choisir. » Attendez, choisir? Paul, de quoi parles-tu? Tu es dans une prison romaine. Quel choix as-tu? Ils sont probablement en train d'aiguiser la hache pour te décapiter en ce moment même. Comment ça, tu ne sais pas quoi choisir, rester ou aller au ciel? Il a dit, « J'ai le désir de m'en aller, de lever l'ancre et de mettre le cap sur le ciel. Mais je vois que Dieu n'en a pas encore fini avec moi. Il sera plus utile, plus profitable que je reste afin de pouvoir porter plus de fruits parmi vous. » C'est fou si vous pensez à cela. Il a du mal à se décider. Pas une seule fois, Paul ne se désigne comme prisonnier de Rome. Mais à plusieurs reprises dans les Écritures, il se désigne comme le prisonnier de Jésus-Christ. Paul savait qui était aux commandes, et mon ami, ce n'était pas Rome. Alors il a dit, « Je vais être libéré et je vais vous revoir. Réfléchissez-y. » Versets 24 à 26, « Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Je vais vous revoir. » Comment pouvait-il dire cela? Comment pouvait-il faire cela? Voici quatre raisons et je vais conclure avec cela. Premièrement, il pouvait le dire parce qu'il appartenait au Seigneur Jésus-Christ. En Philippiens 1:1, il se qualifie lui-même de serviteur de Jésus-Christ. Deuxièmement, il était dans la volonté de Dieu. En Actes 23:11, Jésus lui est apparu et lui a dit « De même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome ». Sa présence à Rome faisait partie du plan de Dieu. Il savait qu'il faisait la volonté de Dieu. Troisièmement, Dieu n'en avait pas fini avec lui. Sa course n'était pas terminée. Il avait encore des fruits à porter et il le savait. Quatrièmement, il avait la foi. Il a dit « persuadé de cela », c'est le mot grec qui signifie « foi ». Ayant cette foi, cette confiance intérieure que je vais être libéré, vous priez, le Saint-Esprit va pourvoir. J'ai une ferme attente. Je vais vous revoir. L'apôtre Paul était un homme de foi, j'ai encore tant à dire, mais je n'ai pas le temps. Alors, mon ami, jusqu'à ce que nous nous revoyions, que Dieu vous bénisse abondamment et que sa parole prenne vie dans votre cœur.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.